Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor. Je suis votre chef de cabine au nom de notre commandant de bord, qui est ce soir Christophe Blain. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux autour de Chittagong, San Francisco, Téhéran, la base antarctique de Dumont-d'Urville et la vallée de la mort. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce, jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité en vue de notre décollage immédiat. Préparez-vous à sentir vos cheveux dans le vent sous les trépidations de nos machines. La dièse en gentleman, welcome on board. This is a great pleasure to be with you. Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir. Il fait jour dehors toujours, c'est sympathique par rapport au reste de l'année. Christophe Blain, dessinateur, ça vous va comme titre pour votre fonction dans la vie de manière générale?
Ah oui, ça me va très bien.
Vous avez l'air très content, donc ça vous va?
Oui, je suis très très content.
Vous avez exercé d'autres métiers, j'ai lu, vous avez été déménageur. Quel souvenir est-ce que vous avez de vos déménagements?
J'ai été déménageur une journée.
Ah, une journée?
Oui, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et le gars qui m'employait a été obligé d'aller chercher des types. J'avais 17 ans, 18 ans.
Vous avez déménagé quoi?
J'avais déménagé l'appartement d'une petite vieille dame qui habitait dans Paris, je me rappelle plus où, il y avait des escaliers très exigus, je me rappelle de ça, c'était un cauchemar. J'ai pas pu aller au bout de la journée, j'avais les muscles tétanisés, je pouvais plus. Et il m'a pas payé tout mon salaire parce qu'il a dû l'employer à payer des gars qu'il avait recrutés dans le café du bas pour pouvoir remplir le camion.
Facteur aussi, ça durait plus d'une journée.
Ah ouais, non, ça, non, facteur, j'étais beaucoup plus sérieusement facteur. D'abord au centre de tri, ensuite j'ai remplacé le facteur, c'était un cauchemar.
Un cauchemar, pourquoi?
Mais parce que j'avais mon propre vélo et en fait, je n'arrivais pas à distribuer tout le courrier aussi bien qu'un facteur. Mon vélo déraillait parce que les sacoches étaient trop lourdes et elles pesaient sur la chaîne. Et ensuite, les lettres, quand je les distribuais, étaient pleines de cambouis. C'était abominable. Et
on
j'arrivais
a fait
pas.
Des réclamations
pour il me fallait 3 jours pour distribuer le courrier d'une journée. Non, c'était affreux, affreux.
Et aussi, vous avez fait des enquêtes, j'ai lu.
Oui, j'ai fait des enquêtes pour la mairie d'Anières qui posait le câble à l'époque, il fallait faire un recensement des propriétaires des maisons. Et en fait, j'avais trouvé un truc, c'est que j'avais été voir les gars et je leur avais dit personne n'est là en semaine. Donc il faut que je les fasse le week-end et vous me payez en heure supplémentaire. Donc en fait, je ne travaillais pas du tout la semaine et je travaillais que le week-end et j'étais payé 2 fois plus.
C'était, effectivement. Donc vous êtes donc très connu pour la nouvelle BD, on peut dire ça, avec Isaac le Pirate et Quai d'Orsay plus récemment et Gus. Donc c'est la nouvelle BD, c'est ça en gros?
Elle est vieille maintenant, vous savez, elle a plus de 15 ans déjà, presque 20 ans.
Mais c'était la nouvelle BD quand elle est sortie.
C'était quand on était jeune, ouais, c'est vrai, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait comme ça et j'ai été embarqué dedans malgré moi. Je suis arrivé à ce moment-là, puis c'était mes copains. Et voilà, on s'est fait appeler comme ça.
Alors, vous allez piloter notre avion. Première destination, c'est celle-ci. You live in Phnom Penh. I check my email. I'm too geared up to fall asleep. So I write you back and count the days until we'll be together. The first thing that I do is throw my arms around you and never let go. And never let go.
thousand feet high, flying through the dead of night. I took an Ambien and you came to visit me in my dream.
You were bed in blue light, floating right in front of me. Your face was so, 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 so bright. I had to close my eyes to see. The first thing that I do is throw my arms around you
and never let go.
And never let go. Never let go.
Tiger von Card du Dengue Fever, Christophe Plain, pour parler de votre première destination qui est au Bangladesh. C'était votre premier voyage, je crois, en 91, et Chittagong, on est la deuxième ville. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
Ben, c'était mon premier grand voyage. Je n'avais jamais été plus loin que l'Irlande. C'était la destination la plus... J'avais 20 ans. Et c'était aussi pour faire mon premier livre. C'était avec... C'était Albin Michel qui m'avait envoyé là-bas. Le directeur artistique de l'époque, qui s'appelait Frédéric Houssin, avait créé une collection où il envoyait des étudiants, enfin, ou des gens qui sortaient juste de leurs études pour aller faire des carnets de voyage, généralement accompagnés d'un journaliste ou d'un écrivain sur un sujet particulier. Et j'avais postulé, j'avais vu pendant un an, j'avais montré des dossiers. Puis un jour, il m'avait appelé, il m'a dit voilà, dans 15 jours, tu pars. J'étais pas. Je les avais à zéro à ce moment-là. J'étais pas très, très fier. J'en menais pas large et j'étais très impressionné par, à la fois par le voyage et par le fait de faire mon premier livre. Il fallait que je dessine, que je ramène des dessins sur place dans des conditions que je connaissais pas. Puis j'imaginais que ça allait être assez difficile.
Premier souvenir, c'est quoi?
Le premier souvenir, c'était que bah, c'est un pays du tiers-monde et pas à moitié. Donc c'est très, très... Pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup voyagé à l'époque, c'est très choquant qu'on rentre dans un autre monde.
Et, qu'est-ce qui choque?
La pauvreté. L'extrême pauvreté et aussi la densité de population inimaginable. Inimaginable. Je me rappelle, on avait traversé le pays, on était arrivé à Dakar et ensuite on avait été à Chittagong, il y avait une deuxième base à Chittagong et c'était par l'intermédiaire de Caritas, c'est le Secours catholique international qui avait plusieurs antennes comme ça. Et il y a des moments, on avait fait des périples dans la jungle et... on était dans un 4x4 comme ça, puis on était dans la jungle, quoi. Vraiment la jungle, une jungle d'Indiana Jones, vous voyez. Et puis on arrêtait le 4x4, on allait se dégourdir les jambes, et des gens surgissaient de la végétation comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 100. Et ils étaient là, et en fait on s'apercevait qu'il y a des gens partout, 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 parce que le pays est très petit avec une densité de population
c'est
fabuleuse.
C'est le plus dense au monde, je crois. Les Pays-Bas, semble... c'est en deuxième, mais le
oui,
Bangladesh,
et notamment quand l'eau monte, puisque c'est comme les Pays-Bas, c'est un pays qui est en dessous le niveau de la mer, quand l'eau monte, évidemment les territoires se rétrécissent et la densité augmente. C'est absolument fantastique. J'ai un autre souvenir très très spectaculaire. J'étais revenu à Dakar après Chittagong et après une aventure pas possible où j'avais été au fin fond de la jungle dans une antenne de Caritas qui était tenue par des types, des Bengalis qui étaient là, qui étaient les seuls à être très gros. Et en fait, je m'apercevais qu'ils détournaient tout ce que l'ONG amenait là-bas. C'était des truands, c'était des gangsters. Et j'ai cru que je ne rentrerais jamais chez moi. Et mon chauffeur, qui était un vieux monsieur, qui parlait il avait trois mots d'anglais, quoi, hein, donc on avait un langage commun très 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 difficile. Je suis resté là-bas deux trois jours. J'ai cru que jamais je ne reviendrais chez moi. J'ai eu le vrai mal du pays, c'est-à-dire quand on commence à perdre ses repères et qu'on se sent très mal. Il est venu me chercher, Il est revenu au bout des 3 jours. Et quand je l'ai vu, on est tombés dans les bras l'un de l'autre comme des vieux amis. Et je me rappelle qu'on a fait tout le retour sur la piste. On a fait tout le retour j'ai réussi à savoir combien il avait d'enfants, ce qu'il faisait dans la vie, où est-ce qu'il habitait, etc. Je ne sais pas dans quel langage on a parlé. Et quand on est arrivé à Dakar, je lui ai dit, j'ai envie de dessiner. On est arrivé à la gare routière. Il m'a dit, t'es sûr? Enfin, je ne sais plus comment il m'a dit ça, mais il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, bon, ben, oui, j'ai envie de dessiner. J'ai envie de dessiner dehors avec mon carnet. Je suis sorti sur la gare routière. Et en moins de 3 minutes, il y avait des milliers de personnes qui étaient autour de moi, mais qui étaient contre moi, en fait. Et ça a fait un véritable embouteillage. Et lui est venu me chercher en jouant des coudes. Il donnait des coups de poing aux gens. Et il m'a attrapé par le col et il m'a remis dans le vieux Toyota. Et on est reparti jusqu'à la base de Caritas. Les gens étaient absolument adorables. Mais j'ai jamais vu une densité de population à ce point. C'était vraiment très spectaculaire.
My pocket don't drive me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. The factory that you call your mind, graveyard thoughts of stone. A master thief, I wouldn't enter there. You've nothing I would get on, so help me. Pretending that you got it made. You know I know you know no truth. You're still serving cookies and Kool-Aid. You're so proper and so cute. Statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. So help me.
Rodriguez, Only Good for Conversation, Christophe Blain, l'objet de luxe, enfin on vous a demandé dans le questionnaire les 3 objets de luxe que vous mettez dans votre valise, je n'en mets pas pour pouvoir en ramener, sinon mes carnets, ils ne sont pas luxueux, mais c'est ce que j'ai le plus peur de perdre. Vous en avez combien et vous dessinez tout le temps?
Je dessine tout le temps, oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à... Je croyais qu'il fallait faire des grands dessins. Parce que je me disais, il y a des paysages, il y a des grands paysages. Donc j'emportais tout un tas de tailles variées de carnets. Puis je me suis rendu compte petit à petit qu'il suffisait d'un petit... Il fallait un carnet qui tienne dans la poche du jean. Les petits carnets noirs, je ne veux pas citer la marque, tout le monde... Ah, si c'est des Moleskine, il faut le dire. Qui sont très bien faits, il faut dire qu'ils sont absolument impeccables pour ça. Et quand ils sont en format à l'italienne, c'est-à-dire en long comme ça, on peut faire des paysages panoramiques, mais on n'a pas besoin de plus de 20 cm de dessin pour faire un dessin qui a de l'air, et c'est beaucoup plus pratique. On fait tout beaucoup plus vite, avec autant de pêche. Et donc j'ai pas besoin d'emporter beaucoup de carnets, parce que quand on emporte beaucoup de carnets, c'est qu'on a peur. C'est qu'on a peur de rater ses dessins et puis qu'on devient très fouillis. Et j'ai appris au fur et à mesure de tous les carnets de voyage que j'ai fait que finalement, valait mieux un petit livre qu'on ne dépiote même pas d'ailleurs, que je fais scanner tel qu'il est, et que je dessine recto verso sans avoir peur de rater d'abîmer le dessin que j'ai réussi à la page précédente. Parce que justement, ça, on est dans un état de concentration, un
mais
peu de transe.
Mais vous mettez la pression, visiblement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rater vos dessins.
Mais on est obligé, quand on fait des carnets de voyage, de se mettre la pression. Par exemple, il ne faut surtout pas emporter d'appareil photo. Si on commence à apporter un appareil photo, on est foutu. Parce qu'on va avoir la tentation de dire « ça, je l'ai vu trop vite, Donc je prends une photo, puis je le dessinerai plus tard. Et si on commence comme ça, on est foutu. Il faut qu'on dessine ce qu'on peut dessiner, puis c'est tout. Et il faut quand même ramener, en règle générale, au moins une vingtaine, voire plus de dessins par jour. Certains étant très élaborés, pour faire un dessin élaboré, il faut facilement une demi-heure, une heure, et même les reprendre en plusieurs fois, après, le soir, etc. Et quand des dessins qu'on fait sur place, dans toutes les circonstances, en voiture, debout, dans le froid, dans le chaud, sous la pluie, tout ce que vous voulez. Et oui, donc il faut quand même être très concentré et être sous pression.
Vous avez un style particulier, hein, évidemment, on le voit dans vos bandes dessinées. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tout d'un coup, quand vous voyez quelque chose, vous dites comment je peux l'adapter ça à mon style, ou comment ça se passe ?
Mon style de carnet de voyage est différent de mon style de fiction. C'est-à-dire que j'ai un style, on pourrait dire, beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que je dessine les gens, je les déforme la déformation de mon dessin vient du fait que je suis obligé de dessiner vite et de le synthétiser. Mais si je peux m'apesantir, j'ai un dessin beaucoup plus descriptif, beaucoup plus, j'allais dire, classique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais qui se rapproche d'un dessin réaliste, en fait. Même si c'est vraiment un dessin de croquis, un dessin de carnet, où on voit que c'est fait sur place, où j'utilise la matière que j'ai sous la main, où parfois le dessin n'est pas fini et c'est ce qui fait son charme, où je suis obligé de le faire en 3 secondes, comme ça, de une personne, une chose que j'ai vue. J'ai un dessin qui est complètement différent. J'ai pas du tout la même attitude de dessin quand je dessine de la fiction, que je suis à ma table et que j'imagine de ce que je vais dessiner, où je m'inspire de photos, que quand je suis sur place et je dessine strictement ce que je vois. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un œil photographique et de rendre les couleurs, l'ambiance, la lumière avec tous les moyens du bord.
Vous avez reçu votre premier Lucky Luke à 4 ans, oui. À peu près, et vous avez eu tout de suite envie vous-même de copier ça, de dessiner, de
c'est mais j'ai toujours dessiné. Je me rappelle pas quand est-ce que j'ai commencé. J'ai commencé comme tous les enfants qui font des empreintes de gouache et de toutes les saloperies possibles sur des grandes feuilles colorées. Ils font des dessins abstraits superbes. Mais j'ai jamais arrêté. Généralement, les enfants arrêtent de dessiner quand ils atteignent à peu près 10 ans. Moi, j'ai toujours continué de dessiner.
Vous avez un peu froid ou pas ? Parce que nous sommes en train de survoler en fait une base antarctique qui sera notre deuxième escale.
One night Johnny sang the truth to me. On a northbound train from Nashville, Tennessee. Taught me all the letters in a loan. Sang freedom is where you think it is, but there ain't no train to Stockholm. Received your invitation to the war. I sent it back, so please don't sin no more. I'd rather rot in some jail all alone. Singing freedom is where you think it is, but there ain't no train to Stockholm. If I have to ride this train 100 years, all I have to drink is my own tears. I'll not kill for you or on my own. Singing freedom is where you think it is, but there ain't no train to Stockholm. Governments and politicians too. There's lots of people feel the way we do. 100 million of us can't be wrong. Singing freedom is where you think it is, but there ain't no train to Stockholm.
C'était la voix de Lee Hazelwood, pas hyper connu, mais c'est lui qui a signé la chanson « These Boots Are Made For Walking » de Nancy Sinatra, oui. À la demande de son père.
C'est un chanteur qui considéré par beaucoup de musiciens comme un génie et qui est assez peu connu du grand public.
Que vous citez dans votre ouvrage, La Fille.
Oui, oui, on a repris une chanson avec Barbara de Lee Hazlewood. Et il a un peu le statut qu'avait Gainsbourg dans les années 60, où il avait un succès critique très important, mais il était peu connu du grand public. Et par contre, il signait des tubes pour des chanteuses qui étaient beaucoup plus populaires que lui. Il y a un petit peu, on peut utiliser cette comparaison. Mais c'est un musicien absolument génial et qu'il faut découvrir, hein, et qui a énormément d'humour, d'ironie, de tendresse, de mélancolie, et qui utilise une espèce de country un peu pop comme ça, avec sa voix qui a une classe infinie. C'est lui qui a fait vraiment la carrière de Nancy Sinatra. C'est sur ses tubes, en dehors de Bang Bang qui venait d'avant, mais qui... C'est sur les tubes de Lee Hazlewood qui sont merveilleux. C'est vraiment un chanteur merveilleux.
Alors, vous pilotez notre avion Christophe Plat en direction d'une base antarctique à Dumont-d'Urville. Pourquoi ?
Parce que j'ai fait un bouquin aussi là-bas. C'est très étrange de se retrouver là-bas. J'ai eu la chance, j'ai demandé de faire un bouquin là-bas, et puis j'ai été accueilli sur cette base polaire. Et c'était une expérience extraordinaire. Il ne faisait pas si froid que ça, parce que j'y étais en été. Alors, l'été austral, c'est-à-dire que c'est l'hiver.
Pas si froid que ça, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'il fait entre 0 et moins 10. Mais alors, par contre, ce qui n'est pas le cas l'hiver. Hein, l'hiver, on descend à moins 30, moins 40. Mais ce n'est pas l'endroit où il fait le plus froid, parce qu'on est sur les côtes. Par contre, ce qui est très, très difficile à vivre, c'est le vent. C'est-à-dire que c'est une toute petite île qui est à quelques encablures du continent. On voit le continent. Des grandes falaises de glace, comme ça, qu'on pourrait comparer aux falaises du Pays de Caux. Mais qui sont entièrement en glace. Et on est sur une île complètement chaotique, une toute petite île balayée par le vent, et qui n'est habitée que par des manchots, les manchots adélies, c'est-à-dire c'est les petits, c'est pas les grands, les empereurs ou les royaux, c'est les petits manchots. Et les scientifiques et les gens qui maintiennent la base en activité vivent au milieu des manchots comme des poules dans une basse-cour. Voilà. Donc on vit au milieu des manchots, et c'est l'endroit de l'Antarctique qui est un des endroits les plus intéressants, parce que c'est là que la faune est la plus riche. Parce que sinon, il y a des endroits où c'est absolument désert. Sur la base américaine, par exemple, il n'y a absolument aucune faune, hormis une faune sous-marine. Mais on peut observer beaucoup d'oiseaux, beaucoup de phoques, beaucoup de... Voilà, tous les animaux du cru dans cette région.
Et mais la question s'impose, je vous écoute Christophe Plain, mais la question s'impose, pourquoi aller là-bas pour dessiner des choses ? On dirait que c'est l'endroit
pour
au monde où
comment on vivait
il y a la moindre de choses possibles à dessiner, puisque tout est blanc et tout est uniforme.
Non, c'est pas vrai.
À part les animaux.
Non, il y a beaucoup de choses. Et puis c'était pour raconter la vie sur cette base. Sur cette bon sang de base qui est quand même très particulière. Et ce qui est frappant quand on arrive là-bas, c'est qu'on imagine de loin, moi j'imaginais un peu comme tout le monde, les bases scientifiques, une espèce de dôme un peu blanc comme ça, avec des scientifiques, des gens avec leur grosse moumoute avec le bord en peau, là, puis la capuche. Et en fait, pas du tout. La plupart sont des techniciens. C'est des gens même qui travaillent sur des chantiers en France. Et la base ressemble à un vieux chantier assez dégueulasse, complètement rouillé, battu par le vent. Et il y a quelques scientifiques qui y sont, mais la plupart des gens sont là pour la maintenance. L'été, il y a beaucoup plus de gens. C'est-à-dire, dans l'été austral, il y a des rotations de bateaux, et on doit partir de Hobart, qui est en Tasmanie, qui est une ville très étrange, assez sympathique, mais très étrange. Et il y a une rotation de bateaux qui est très longue. On doit faire une petite semaine de bateau, dans les 50e hurlants. C'est-à-dire, quand la mer est calme, vous avez en permanence des creux de 5 mètres. Et moi, je souffre d'un mal de mer chronique. Donc, c'était très, 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 très dur.
Vous êtes allé en 97, ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi vous êtes allé là-bas, qu'est-ce que vous êtes allé chercher, et est-ce que vous avez trouvé ?
J'ai fait un bouquin. Oui, j'ai fait un bouquin.
Mais pourquoi là ?
Au départ, on me l'avait proposé pour faire des dessins pour de la publicité, figurez-vous. Et puis... ce projet tombant à l'eau, je l'ai gardé. J'ai dit, mais non, mais moi, je vais en faire un bouquin pour raconter la vie des ce qu'on appelle les polaires, c'est-à-dire les gens qui vivent sur ces bases-là. Et donc, ils ont accepté. Ils m'ont mis une semaine à l'essai. Ils m'ont dit, si tu t'entends bien avec les gens sur place, tu pourras rester un mois. C'est ce qui s'est passé. Au bout d'une semaine, ils ont vu que j'étais assez sympa, que j'étais un bon camarade. Et c'était un terrain de jeu pour moi extraordinaire, parce que... comme c'est, je vous dis, il y a plein d'engins de chantier, il y avait des scientifiques, il y avait tout un tas de populations assez hétéroclites. J'étais copain avec tous les gars, notamment avec le pilote d'hélicoptère, ce qui est assez rare quand, quand j'étais petit garçon. J'aimais, comme tous les petits garçons, les avions, les hélicoptères, les voitures, etc. Alors j'étais copain avec le pilote d'hélicoptère. Il m'emmenait faire des tours au-dessus des glaciers. J'ai vu des trucs assez incroyables. Au-dessus des glaciers géants, on survolait ça en hélicoptère. C'est d'ailleurs très triste parce qu'il est mort l'année d'après dans un accident. Juste la mission suivante, l'année d'après, il y a trois des copains que j'ai connus là-bas qui sont morts. L'hélicoptère s'est écrasé au milieu de la base. C'est une histoire absolument terrifiante. Et j'étais malade dans l'hélicoptère, c'était affreux. Mais j'en ai quand même un souvenir visuel très fort et des gens que j'ai pu rencontrer là-bas qui étaient des gens exceptionnels et qui m'ont permis... ça a nourri ce livre, mais ça a nourri aussi mes histoires de fiction parce que toutes les expériences que je vis comme ça... Je les utilise après dans mes histoires de fiction et j'ai raconté des histoires d'explorateurs polaires au XVIIIe siècle.
C'est un monde très masculin, non ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que j'y suis allé juste avant. Il y a des femmes qui viennent l'été, mais l'hiver, il n'y avait personne à l'époque. Ils sont 80 l'été en moyenne sur la base et l'hiver, ils sont 28. Et à l'époque, les hivernages, c'est-à-dire qu'on ne peut plus naviguer autour de l'île parce qu'elle est enserrée dans la banquise. Il y a de la banquise sur des kilomètres et des kilomètres. Et après, la banquise se débâcle. Et le bateau peut arriver et amène les arrivants de l'été et les hivernants peuvent repartir. Il n'y avait pas de femmes à l'époque et c'était juste avant que les femmes arrivent, c'était en 97. Et alors ils avaient très peur de ça parce qu'ils disaient si ça commence à être mixte, ça va être la chienlit. Effectivement, ce n'est pas facile à gérer. Sur des bases beaucoup plus grandes, ils viennent même en famille au Kerguelen, etc. Ils sont beaucoup plus nombreux. Mais à Dumont-d'Urville, on vit vraiment comme sur un sous-marin. La vie est très, très restreinte. Et ça fait des histoires, parce que forcément, il y a des histoires d'amour qui se créent, il y a des histoires d'amour qui se défont, donc ça perturbe la vie de la base. Mais je pense qu'avec le temps, ils ont réussi à trouver une méthode, parce qu'il y a toute une méthode, les gens sont sélectionnés pour des qualités psychologiques très particulières pour pouvoir vivre dans ces conditions-là. Mais ça serait intéressant de leur poser la question maintenant, de savoir où ils en sont au bout d'une quinzaine d'années d'expérience mixte sur la base.
Thank you.
écoutez Voyage en moins majeur ce dimanche soir sur France Musique avec notre commandant de bord Christophe Blain, dessinateur. Et là, c'était une chanteuse iranienne au nom absolument formidable de Gougouche qui nous a chanté Manoutou. C'est vous qui avez choisi ce disque pour parler de Téhéran. Pourquoi elle ?
Enfin, une musique qui est en rapport avec le ce qui n'était pas le cas des précédents.
Je ne voulais rien dire, mais voilà.
Voilà. Non, mais là, pour le coup, ça tombe pile. Oui, Gougouche est une chanteuse incroyablement populaire et qui pourrait être une espèce de... Je ne sais pas si on peut comparer à des chanteurs français, mais ça serait à la fois Charles Aznavour, Barbara, Jacques Brel. Et, voilà, elle est incroyablement, incroyablement populaire. J'aime beaucoup ce son-là du début des années 70 avec un mélange de samba, qui est très, les cuivres complètement lyriques, qui ont un côté un petit peu Charles Aznavour. D'ailleurs.
Mais vous êtes allé en 2002 à
Téhéran. J'étais à Téhéran, envoyé par Géo, et j'ai choisi cette destination parce que j'étais très ami avec Marjane Satrapi. Donc j'avais une vision de l'Iran tout à fait particulière à l'époque. Et elle m'avait, j'avais évidemment un réseau pour pouvoir voyager là-bas. Et elle m'avait envoyé, elle m'avait dit, tu vas voir là-bas, je vais appeler un de mes meilleurs copains d'enfance que je connais très bien, qui s'appelle Amin Mardavi. Et Amin, qui m'a accueilli là-bas et qui m'a servi de guide dans Téhéran, est un type absolument extraordinaire. On a le même âge. J'avais une trentaine d'années, 32 ans à l'époque. Et je vois une espèce de grand type qui rigole tout le temps, extrêmement sympa, un visage jovial, une très grosse barbe, des très longs cheveux noirs, et qui est toujours habillé d'une tunique et d'un grand pantalon noir en lin, et qui fait que tout le monde le prenait pour un derviche, alors qu'il venait de la très grande bourgeoisie téhéranaise. Et il a été pendant très longtemps, c'était un playboy, ça a été pendant des années, les années de sa vingtaine, un playboy qui était toujours en costard et un grand dealer de drogue. Je ne devrais pas dire ça là, publiquement, mais c'était un grand fêtard, disons, voilà le mot. Et puis un jour, il a décidé, il était dans le désert, il faisait souvent des retraites dans le désert comme ça, c'était un très très grand consommateur de femmes, il faisait des retraites dans le désert parce qu'il en avait un peu marre. Et pour se reposer, et puis il allait équipé comme quelqu'un qui va marcher dans le désert avec des patogas, avec tout ce que vous voulez, un treillis. Et puis une nuit, il est sorti, il était à moitié à poil, il n'avait pas ses lunettes, il s'est baladé pieds nus comme ça, je ne sais pas ce qu'il allait faire, il est sorti de sa tente, puis il s'est rendu compte que ça allait très bien. Et il est retourné dans le désert comme ça. Il a dit, maintenant c'est fini, je voyage pieds nus. Il a fait des voyages en Inde comme ça, un type extraordinaire, très 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 marrant, pas du tout un illuminé mystique, mais qui faisait des expériences incroyables. Et quand j'étais dans la rue avec lui dans Téhéran, je voyais des gens qui venaient lui parler, moi je dessinais, il était sous le soleil, un soleil de plomb. Moi, j'essayais
dessiner
de...
quoi ?
Je dessinais tout ce que je voyais, je ramenais un reportage. Et je voyais des gens qui s'arrêtaient, puis je me disais, mais tu les connais, ces gens qui lui parlaient pendant des heures. Il dit, pas du tout. Les gens pensent que je suis un derviche. Et donc, ils me montrent des photos de leur famille en pensant que je vais pouvoir intervenir de quelque manière, enlever le mauvais œil, avec ça. Et parce qu'ils parlaient avec beaucoup de familiarité avec ces gens-là. Évidemment, je ne connais pas le farsi, donc je savais pas ce qu'ils disaient. Et ils me disaient, au début, je me défendais, je leur disais non, je ne suis pas derviche. Et puis, petit à petit, je me suis dit, soyons tranquilles avec ça. Tout sourire, il les accueillait. Et il prenait, même les derviches le prenaient pour un derviche. Donc, c'est un type extraordinaire et qui bien qu'il venait de cette société-là, de par ce statut et l'ouverture d'esprit qu'il avait, il avait voyagé, il avait traversé l'Inde pieds nus, enfin il était complètement dingue, mais il était très marrant. Il accédait à toutes les couches de la société. Donc il m'emmenait dans les fêtes d'une bourgeoisie inaccessible à Téhéran, tout en haut des immeubles, et en même temps on pouvait aller, on était dans les marchés, on était au contact de la population la plus modeste, et il me montrait tout ce qui se passait, le rapport entre les hommes et les femmes, parce que évidemment, comme le rapport entre les hommes et les femmes est interdit, il ne pense qu'à ça en permanence, et c'était très très marrant il avait une façon de me le montrer d'ailleurs en me laissant observer. Il répondait pas à mes questions. Il me laissait observer, puis au bout d'un moment, je lui dis, mais regarde, là, j'ai l'impression qu'il se passe ci ou ça. Il me dit, voilà, t'as compris. Et après, il me donnait les clés. Des gens qui, les jeunes, se rencontrent au feu rouge et échangent leur numéro de téléphone entre les vitres, comme ça. Ils baissent la vitre et très rapidement, ils s'envoient des petits papiers parce qu'ils se plaisent. Quand ils se donnent rendez-vous... Ils se donnent rendez-vous dans les maisons, etc. Alors je lui disais, mais c'est terrible, c'est une activité, les filles vous regardent d'une façon extrêmement brûlante, alors qu'elles sont très, 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 très aguicheuses. Je lui disais, mais ça va être terrible, ça va être la foire du sexe à Téhéran si le régime tombe. Il m'a dit oui pendant une semaine. pendant une semaine. Après, ça va redevenir comme avant à l'époque du chat. C'est-à-dire que les filles, pour pouvoir coucher avec, il va falloir les emmener au moins 10 fois au restaurant. Et il dit, là, c'est beaucoup plus marrant quand ça se passe comme ça.
Doors, le morceau s'appelle The Spy, l'espion. C'est pour parler, Christophe Blain, de votre plus beau voyage. C'est votre premier voyage aux États-Unis. Vous êtes allé en 1995.
C'est ça, oui. C'était un voyage de vacances. Mais c'était un voyage, c'était mythique, mystique. Quand je suis arrivé là-bas, c'est le pays de mon enfance. C'est le pays de mon enfance. J'ai une fascination assez banale, mais j'ai été très marqué, je ne sais pas pourquoi, en regardant la télévision peut-être, quand j'étais tout petit.
C'est un pays imaginaire de votre enfance.
Oui, mais ce qui était frappant, c'est que je suis allé pour la première fois, il était à la hauteur de mon imaginaire. À tel point que...
C'est-à-dire rêver dans les Lucky Luke, dans les bandes dessinées.
Et pas seulement, votre... non, plus... Alors là, je dirais beaucoup plus le cinéma. Mais même avant que j'ai une capacité d'analyse pour ça, c'était vraiment tout petit.
Moi, vous savez, c'est les sitcoms, comme j'ai grandi en Grande-Bretagne. Les États-Unis, c'est clair et net, c'est ma sorcière bien-aimée. Moi, j'ai grandi dans les années 60, je regardais ça tout le temps. J'imaginais que tous les États-Unis, c'était la banlieue paisible, comme on voyait dans ma sorcière bien-aimée. Et vous, c'était quoi?
Bah, des grands déserts. Des grands déserts avec des Indiens derrière les rochers et des petites villes de planches perdues au milieu de nulle part. Et des grandes routes avec des voitures toutes plates qui glissaient dessus et des gros camions.
Et la vallée de la mort.
Et la vallée de la mort. Et quand je conduisais la voiture, j'étais parti avec ma compagne. C'est moi qui conduisais, j'étais d'ailleurs très mécontent parce que j'aurais préféré être sur la place du passager en train de dessiner. Je dessinais sur la route. Parce que la route aux États-Unis, c'est un endroit de détente extraordinaire. Faire de la voiture en Europe ou n'importe où dans le monde, c'est très fatigant quand on est en vacances. Là-bas, on se détend sur la route. On est dans un état contemplatif, d'une espèce de transe douce.
On s'ennuie un peu, non? C'est tout plat,
pas du tout.
C'est tout,
non? Non, quand les paysages... Oh, comment on peut s'ennuyer quand on est dans la vallée de la mort ou dans Canyonlands, ou je sais pas, dans le canyon de Shelley, ou je sais pas, enfin dans ces
non, mais j'imagine de longues routes qui s'étendent.
Oui, mais ça,
jamais,
ah,
sans
si
jamais
vous êtes dans les plaines du Middle West où il n'y a que des champs de blé, effectivement, on s'ennuie un peu, mais sur ces paysages-là, les paysages des Four Corners, les grands parcs américains avec ces roches extraordinaires, on s'ennuie pas du tout. Et je me rappelle que quand j'avais monté les contreforts de la Vallée de la Mort, j'étais arrivé au col. Et j'avais eu un choc quand la veille de la mort est apparue devant moi. Et je le raconte dans le livre, d'ailleurs, le livre que j'ai fait avec Barbara. J'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. Alors, j'ai essayé de les retenir, parce que j'avais un petit peu honte avec ma copine, tout ça. Je ne voulais pas lui montrer, mais j'étais
vraiment... Qu'est-ce
que
vous avez vu? Vous avez vu quoi, exactement?
Mais j'ai vu la vallée de la mort qui s'étendait devant moi, comme ça, ça fait... une étendue qui n'en finissait pas. Et ça m'a vraiment impressionné, parce que je me suis dit, c'est comme dans mes rêves. J'y suis, c'est comme ce que j'ai vu au cinéma, c'est comme ce que je rêvais, et ça existe vraiment. Et ces paysages-là m'ont fortement impressionné, et c'est des paysages qui vous font un coup, ils ressemblent à rien, ils sont très étranges, complètement, c'est des paysages extraterrestres, et qui dégagent, on développe des pensées mystiques très rapidement dans ces paysages-là. Le désert appelle ça, et je connais peu les déserts, je connais qu'un petit peu les déserts américains, mais ils appellent ça, il y a une ambiance très étrange, et j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. J'étais très ému parce que enfin je touchais du doigt ce dont j'avais toujours rêvé. Et quand je vois un paysage de désert américain ou quand je vois un western ou un road movie, immédiatement je suis apaisé. Je me sens bien. Je suis chez moi. J'ai une espèce d'énergie calme comme ça. Je suis en parfait accord avec moi-même. Et à chaque fois que je voyage aux États-Unis, tous les voyages que j'ai pu faire là-bas et notamment dans ces régions-là, me donnent un très grand sentiment. D'apaisement, je me sens vraiment très très bien. Je sais, peut-être à cause de l'espace, de tout ce que ça évoque, tout ce que ça évoque en moi, etc. Et c'est un lieu qui est vraiment. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que j'étais un cow-boy. J'ai mis 35 ans avant de pouvoir prendre des cours d'équitation parce que j'avais honte, j'avais peur des chevaux. Je me disais quand même pour un cow-boy, c'est la honte.
Et là, ça marche.
Ben, j'ai pas le temps d'en faire suffisamment, mais ça me plaît beaucoup, oui. Ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien devenir un bon cavalier, mais ça n'arrivera jamais. Je suis trop vieux maintenant.
Alors, vous avez parlé de Barbara Carlotti, qu'on retrouve tout de suite. Vous allez nous expliquer pourquoi après vous avez collaboré ensemble sur la film. On l'écoute tout d'abord.
Au loin, elle repère un village de planches. Autour, il n'y a absolument rien. Sierra Nevada.
qui l'aurait cru? Vaste cimetière, un monde immense à tes pieds.
Sierra Nevada, interprétée par Barbara Carlotti, avec qui vous avez travaillé donc pour ce livre La Fille aux éditions Gallimard, dont vous avez fait les dessins. Elle a fait le disque. C'est un format qu'on trouvait beaucoup dans les années 60. Et là, pourquoi vous avez décidé de ressortir ce format-là?
Mais parce que quand j'étais gamin, j'adorais les livres disques. J'adorais qu'on me raconte des histoires et j'adorais le théâtre radiophonique. Et puis j'adore le cinéma, j'adore le son, j'adore tout ça. Et on a fait ça comme si c'était une bande-son de cinéma, comme si on entendait les acteurs doublés, comme si on entendait les...
Mais comment vous avez travaillé ensemble? Il paraît que vous lui avez infligé des heures et des heures de bruit de moto,
absolument,
par exemple, pour la mettre en ambiance.
Oui, c'est vrai. Non, je lui ai demandé de raconter cette histoire. J'ai découvert ses chansons, j'ai tout de suite adoré son travail, qui n'a rien à voir avec cet univers-là. Et je lui ai tout de suite proposé de travailler
là-dessus. Vous avez entendu là-dessus. La radio, c'est ça? Et d'un coup, je me suis dit...
C'est absolument. J'ai eu la chance, j'avais un copain qui la connaissait, qui m'a dit... Je lui en ai parlé, il m'a dit, mais je la connais, je te la présente. Elle cherchait un dessinateur pour faire l'affiche d'un spectacle, de son spectacle. Donc on s'est rencontrés, j'ai fait l'affiche du spectacle et je lui ai dit, fais un livre disque avec moi et va dans cet univers qui n'était pas le sien. Elle a un univers de très glamour, très romantique, très drôle, avec une drôlerie comme ça, très très chouette, très pop. Et je l'ai emmenée dans mon univers des road movies qu'elle connaissait un petit peu, mais qui n'était pas sa fascination. Moi, c'est une fascination de petit garçon. C'était d'autant plus drôle de la faire travailler là-dessus, avec ses filles qui étaient sur ses motos, ses poursuites comme ça. Donc je lui dis, comme on a fait un travail de bruitage très naturaliste, où on voulait vraiment qu'on entende les choses telles qu'elles sont, même si l'histoire a un côté très, très onirique.
Un petit mot peut-être sur l'histoire, ça reprend la BD de Guy Pellard avec Pravda.
C'était un hommage à l'origine, c'est un hommage à Pravda la survireuse de Guy Pellard et Pascal Thomas, qui était paru en 68.
Vous poussez beaucoup plus loin.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai amené cet hommage au départ, que j'avais fait dans un magazine de 8 pages de bande dessinée. Je l'ai amené ensuite vers une histoire qui prenait son indépendance et que je chargeais de mes propres fantasmes et des choses qui me fascinent depuis que je suis tout môme, et d'en faire une histoire en même temps, une histoire d'amour ça raconte une histoire d'amour qui est assez, même si les personnages sont encore une fois très loufoques, on croit à leur histoire d'amour de manière totalement au premier degré. On la prend à la fois, on en rit, mais on la prend aussi au sérieux. C'est des personnages qui sont vraiment, vraiment émouvants. Et c'était très drôle de travailler avec Barbara là-dessus, entre ce personnage, cette motarde très indépendante, très libre, qui traverse les déserts comme ça, et qui rencontre un cow-boy qui au début est tout petit. Il fait quelques centimètres de haut, il fait 25 centimètres de haut. Elle le cache dans son short pour qu'il échappe à des Amazones, des bandes d'Amazones qui tuent, qui sont des tueuses d'hommes. Et puis, petit à petit, il grandit au fur et à mesure de leur liaison, de leur aventure. Et voilà, donc c'est une histoire très loufoque, mais qui est racontée avec tous les aspects quotidiens qu'elle peut avoir. Faut qu'on la sente comme si elle était vraie. Donc, effectivement, les motos sont des vraies motos. Et Barbara, qui a travaillé sur les bruitages et le montage, lui a infligé d'écouter. Alors que c'est vraiment un univers dont elle est très, très éloignée.
J'avais envie de vous poser une question. Disons, la fille, c'est... Quand tout est possible dans la bande dessinée. Est-ce que ça ne rend pas parfois les émotions difficiles à contrôler? C'est-à-dire que comme vous, absolument tout peut arriver d'une page à l'autre, ce qui est le cas dans votre histoire. Est-ce que, parce qu'on parle aussi de l'amour, est-ce que ça ne rend pas l'amour un peu plus difficile à rendre réaliste?
Mais non, au contraire, parce que je crois que quand on vit des histoires d'amour, justement, on n'est pas dans un... Il y a une confrontation entre la réalité et l'impression interne qu'on a. On n'est plus dans la réalité, on est perdu dans son affect, dans son ego, dans ses rêves. On va au plus haut, au plus bas, et on est justement dans un univers fantastique qui est confronté, et c'est justement la confrontation de cet univers fantastique avec la réalité qui donne des histoires qui peuvent être savoureuses, dramatiques et très drôles.
Il y a beaucoup d'univers dans le livre, ça va être de l'univers médical, il y a tout, il y a l'eau, il y a...
Oui, c'est vrai qu'il se retrouve à l'hôpital.
Oui, c'est ça, absolument.
C'est une des séquences que je préfère d'ailleurs, du point de vue du son, elle est très bien faite.
Alors, ça vient d'abord dans votre tête, ou est-ce que vous voyez très bien ce que vous voulez dessiner avant, ou est-ce que vous découvrez ce que l'ambiance en dessinant?
Généralement, quand je me raconte une histoire, je la vois se dérouler dans le temps d'un film. C'est-à-dire que je vois vraiment des images. Et c'est une traduction, ce que je dessine, et il y a un travail de transcription pour que ça, parce que c'est pas la même dimension, il y a plus que deux dimensions, il y a pas les images ne bougent pas, donc le temps se déroule de manière différente. Que il y a une transcription du cinéma à la bande dessinée ou même à la narration écrite pour qu'on comprenne en combien de temps ça se passe. Il faut que le lecteur puisse percevoir immédiatement à travers les dessins et le texte en combien de temps l'histoire se passe sans qu'il se pose aucune question. Or, si vous voyez une personne qui traverse un écran de cinéma pendant une minute ou 30 secondes, vous savez que ça se passe en 30 secondes. Là, il faut que j'arrive à le faire comprendre sans donner sans utiliser le mouvement et le temps réel. Et c'est ça que ce travail de transcription fait que je cherche toujours des moyens, des images, des découpages qui soient le plus fort pour qu'on soit au plus proche de la sensation des personnages et qu'on comprenne exactement ce qu'ils font malgré les ellipses, malgré le côté synthétique et comment dire. De la mécanique totalement différente de la bande dessinée. Et là, c'était particulier parce que j'ai écrit un texte aussi. Alors que d'habitude, j'écris directement, je dessine et j'écris en même temps.
C'est-à-dire que il y a une page de texte et une page de dessin
ou de bande dessinée. Là, j'ai dû commencer par un texte nu, c'est ce que j'ai présenté à Barbara, qui me disait, là, ce passage-là est bien, ce passage-là est pas bien, quand je vais le lire, je le sens pas, etc. Donc je remaniais mon texte au fur et à mesure, et pendant ce temps-là, elle faisait ses chansons, je lui montrais les dessins, et on s'inspirait l'un l'autre pour arriver à cette espèce d'univers cohérent. Et d'un maximum de fluidité. Ensuite, on a joué les personnages avec d'autres acteurs, et elle a fait ses musiques comme la bande son d'un film. Et c'était vraiment un rêve d'arriver à faire ça, parce que c'était mettre toutes mes fascinations d'enfant. Et puis de rencontrer une chanteuse comme ça, avec sa voix glamour et qui est
très, très aussi, c'est très sexy. Les femmes en cuir, etc. Il y a un érotisme
bon enfant, mais il y a un érotisme quand même. Et même à la fin, il y a même des textes assez crus, qui sont des textes du XVIIIe siècle, des textes anonymes qui sont à la fois très drôles et très, très excitants. Et Barbara les lit avec sa voix chaude. Et j'espère que ça provoque sur le public ce que j'espère que... Enfin, cette espèce de... Ça électrise tout le monde.
Bah pour ça, il y a des mystères et des zones d'ombre, comme vous diriez.
Il y a des mystères et des zones d'ombre. La vie n'est pas une ligne droite. Pas un grand stade vide, pas une dune nue, pas un bleu monochrome, c'est une pluie d'atomes. Il y a des mystères et des zones d'ombre, l'histoire nous donne du fil à retordre. Pas une simple chronologie, pas la campagne d'Italie. Il y a la défaite sans l'oubli. Il y a du temps pour chaque chose et le temps pourtant te tourmente. Pas à pas distille ces minutes, chaque jour plus près de la tombe. visage. Le passé te hante et semble revenir par vague.
Voilà, des mystères et des zones d'ombre. Encore un extrait, c'est Barbara Carlotti de La Fille. Je ne peux pas vous laisser passer parce que vous avez Quai d'Orsay qui est sorti en 2012. Je crois qu'il s'est vendu à combien ? C'est énorme.
Le Thomas a dépassé les 200 000 exemplaires.
Ouais. Alors, vous allez faire un film qui va sortir à la fin
de
cette année.
Bertrand Tavernier a fait un film qu'on a co-écrit Abel Lanzac, Antonin Baudry et moi avec lui.
Et il faut juste rappeler que c'est passé sur quelqu'un qui était inspiré par Dominique de Villepin.
Bah, ça raconte tout ce qui s'est passé au moment où la France, et particulièrement Dominique de Villepin, s'est opposé aux Américains quand ils voulaient lancer, quand George Bush voulait lancer la guerre et tous les néoconservateurs voulaient lancer la guerre en Irak, jusqu'au discours qui est resté célèbre qu'il avait fait au Conseil sécurité de l'ONU en février 2003. Et voilà, ça raconte toute l'aventure de manière très très drôle, parce que c'est fait de gens, c'est plein de gens excessifs et très marrant, notamment le ministre, mais aussi tous ses conseillers qui sont des gens très très hauts, très très hauts en couleur. Et on a Bertrand Tavernier l'a adapté en film. Le film est terminé, il sortira à la fin de l'année, je crois au mois de décembre. Je sais pas si la date est totalement fixée, mais il me semble que ça sera au mois de décembre. On a écrit ensemble et c'était très agréable parce que Bertrand Tavernier est un très bon camarade de travail, quelqu'un de très chaleureux et très très drôle. Et c'est un des derniers grands amateurs de western, et c'est le seul avec qui je peux discuter de manière aussi pointue de western, parce que c'est quand même très rare, les gens n'aiment plus le western maintenant.
Mais ils vont aimer sans doute. Donc à la fin de l'année, ça sort Quai d'Orsay, La Fille, donc aux éditions Gallimard, avec Barbara Carlotti. Christophe Blain, merci beaucoup pour ce merci. Voyage. Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire, raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Fleura, comme d'habitude, notre réalisateur Maud Nourry, comme d'habitude l'assistant de production qui veille sur notre site internet si vous voulez tout trouver, les références et vos commentaires, etc. sont les bienvenus. Et à la technique ce soir, Pascal Bénard. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons surtout vous revoir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique. Bye bye.
Canada du commandant de bord, l'équipage, au revoir. Le francovol qui s'achève apparaît agréable. Merci et bonne soirée.
Et nous retrouvons tout de suite, non pas la fille, mais le garçon, quand il s'agit de Laurent Valero pour ses nuits noires de monde. Bonsoir Laurent.